Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous pour une avant-dernière semaine, puisque tranquillement, la saison 2020-2021 de l'émission tire à sa fin. Donc, il nous reste aujourd'hui et la semaine prochaine avec un club de lecture. Cette semaine, beaucoup de suggestions, d'idées de lecture, j'aurais envie de vous dire, notamment en deuxième partie, il y a Édouard Tremblay à qui on a offert une carte blanche et qui nous amène, qui nous entraîne dans l'univers de Kazuo Koike et de Goseki Kojima autour de la série Lone Wolf and Cub, donc une série, nous dit-il, qui est marquante pour une variété de raisons, marquante pour lui, mais marquante également dans l'évolution du manga, marquante pour d'autres auteurs qui ont été épuisés aussi à inspiration, notamment Frank Miller sur le plan du visuel, et une série qui nous entraîne dans l'histoire de la Chine féodale. Alors vraiment, ce sera une discussion, oui, à saveur de BD, mais également à saveur d'histoire qu'on aura avec Édouard Tremblay. Ce sera en deuxième moitié d'émission. Et pour ce qui est de la première moitié, c'est le dernier mois en BD pour cette saison que nous offre Stéphane Gravel. Stéphane qui nous amènera avec différentes suggestions. Il s'en est tenu à quatre albums qui sont liés par différents éléments de contenu, autant dans certaines caractérisations, certains regards sur la société, mais à travers quatre genres qui sont très, très disparates et distincts. Alors, c'est ce dont on va discuter avec lui dans quelques instants. Alors, voilà, c'est l'édition et le menu de cette semaine ici à La Vie en BD. On plonge maintenant, c'est un peu les semaines des dernières fois. Alors là, avant le retour à l'automne prochain, c'est le dernier mois en BD avec Stéphane Gravel, donc juin 2021. Stéphane Gravel, salut!
Salut, salut! En plus, c'est le fun, ça va donner quelques petites suggestions de lecture pour les vacances, parce que je pense que ce dernier mois-là, moi je trouve qu'il est un beau mois de BD, parce qu'il y a quelque chose de très classique, quelque part.
Oui, puis on se prépare un peu tranquillement à faire des listes de BD qu'on traîne dans les vacances, qu'on traîne dans l'auto, qu'on amène dans les parcs. On voit que la dynamique de lecture change après la lecture de Cocooning d'hiver, la réappropriation de la lumière au printemps. Là, on se prépare à des lectures de vacances, de lectures, disons, qui titillent un peu la fibre peut-être nostalgique. Le dernier, Lucky Luke, Wanted, Lucky Luke, tu t'es plongé dedans. Là.
Ouais, je me suis plongé dedans, puis j'ai aimé ça. Beaucoup. D'ailleurs, on pourrait souhaiter un joyeux anniversaire à Mathieu Bonhomme. Je pense que c'est son anniversaire aujourd'hui, la journée où on enregistre la chronique. Bon, ça le saura plus tard. Et puis, c'est lui qui a pris en main Lucky Luke et puis qui l'a revisité à sa manière, mais tout en étant pas mal classique quand même. C'est-à-dire que ce que j'ai aimé de cette BD-là, de cette remouture-là de Lucky Luke, c'est que Mathieu Bonhomme reste avec une approche assez classique du personnage, et ça reste un Lucky Luke, et j'ai le même plaisir à le lire que j'avais de lire un Lucky Luke de Maurice. Il y a peut-être un niveau d'humour qui est différent, là, que Maurice avait, qui était plus, entre guillemets, BD gros nez comique là, qui existait dans Lucky Luke, qui a un peu moins dans celui de Mathieu Bonhomme. Mais avec le tome 1 qu'il avait fait, que je me souviens plus exactement le titre. L'homme qui a tué Lucky Luke. Il y avait déjà une mise en place de la remouture du personnage. Et là, avec Wanted Lucky Luke, et là, on sent que il essaie de s'approprier encore plus le personnage. Et de là, probablement, le titre, là, c'est qu'on le veut, ce Lucky Luke-là. Et ça transparaît dans l'histoire, c'est-à-dire que Lucky Luke est un peu mis en... Sion et ses valeurs profondes sont un peu remises en question par des éléments externes qui vont venir chambouler un peu son personnage. C'est-à-dire que on remet là un petit peu la question pourquoi il a arrêté de fumer, on va rigoler un peu de ça. Il y a trois jeunes cow-boys, demoiselles qui font un concours pour savoir qui d'entre elles vont pouvoir avoir un baiser de Lucky Luke. Donc, Lucky Luke, il ne peut pas embrasser une femme, là. Il est trop parfait. Donc, tout le personnage devient soudainement hésitant, il se questionne un peu. Et il y a aussi que sa tête est mise à prix parce que Lucky Luke est un assassin. Donc, là, encore une fois, on remet en question le personnage. Et c'est ça que j'ai trouvé très, très, très intéressant dans cette BD-là, parce que ça reste une BD classique, une BD d'aventure, mais il y a des petites phrases un petit peu à travers la BD qui sont intéressantes, comme entre guillemets, Lucky Luke n'appartient à personne. Ou il y a des petites choses comme ça qui font que Mathieu Bonhomme se met un peu en perspective, se met un petit peu pas mal en perspective d'auteur qui se questionne sur qu'est-ce que je fais là, est-ce que j'ai le droit, moi, de prendre Lucky Luke, qu'est-ce qu'il m'appartient, et d'en faire un personnage qui lui est sien maintenant. Et ça, j'ai trouvé ça, c'est subtil et c'est assez, assez cool. Il y a des petites phrases comme ça, un petit peu parsemées tout le long, là, et en fond, que ça devient une lecture intéressante.
Et donc, de ce que j'en comprends, Stéphane, en fait, pour ceux qui ont apprécié L'homme qui est sur Lucky Luke, puis la réinterprétation que Mathieu Bonhomme en avait faite, dans Wanted, Lucky Luke, on poursuit un peu dans la même veine, on amplifie ce qui fonctionnait, et donc ça reste un peu dans... ça reste une ça devient de ce fait, en fait, une recommandation pour ceux qui avaient apprécié cette première tentative-là de Bonhomme. Là.
Absolument, puis je pense même que moi, ma lecture, en tout cas pour moi, ma lecture, elle a été encore plus agréable que le premier. Parce que le premier, j'avais peut-être... C'était excellent, c'était... Mais peut-être que j'avais été un petit peu bouleversé dans mon classique. C'est un peu comme quand on réinterprète une pièce de Gainsbourg, à un moment donné, ça reste l'interprétation. Ces personnages-là, comme un personnage de Lucky Luke, qui a été toute sa vie de personnage traité par le même ou près par le même dessinateur ou plusieurs auteurs, mais le même dessinateur qui devait mettre son grain de sel, c'est sûr. Et bien, quand on arrive avec une nouvelle mouture, comme ça, on arrive avec une interprétation. Est-ce qu'on aime ou pas l'interprétation, à un moment donné? C'est une question de goût. Mais le premier, j'avais trouvé que c'était un tour de force, que c'était excellent. Mais ma lecture j'ai été plus sensible quand j'ai lu le deuxième. On dirait que je comprenais mieux son trait, je comprenais mieux l'approche qu'il avait. Le dessin est vraiment... C'est vraiment superbe. Il dessine Lucky Luke et l'Ouest de façon remarquable. Les couleurs sont très, très belles. Parfois, ces femmes sont un peu dessinées comme Giro pouvait les faire. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, le trait est très différent, mais il y a quelque chose dans le mouvement, dans les gestes qui ressemblent un peu au dessin de Giro dans certaines aventures de Blueberry. Fait qu'on est vraiment dans le western chaud et beau. Ce qui m'a dérangé le plus un peu au début, c'est spécial, mais c'est la place de ces personnages féminins-là. Parce qu'il y a un rapport qui s'installe entre un héros masculin et des héros et des femmes qui vont vouloir s'approprier le personnage du héros masculin qui est Lucky Luke, et en faire, ces trois sœurs-là vont faire une espèce de concours à savoir qui d'entre elles va réussir à avoir le baiser de Lucky Luke, comme je disais. Et ça, je ne sais pas pourquoi, ça m'a dérangé un peu. On dirait que notre société, notre façon de penser aujourd'hui, là, on n'est plus là. J'accepte plus, moi, ce rapport
d'inégalité. Une intrigue un petit peu là. Trop archaïque dans les mentalités. Là, ça, à la limite.
Exactement, mais je comprends aussi parce qu'on est dans le côté des grands classiques du western aussi, où la découverte de cette femme-là qui prend de l'autonomie et qui... Et c'est pas des... Mathieu Bonhomme, je dis pas que Mathieu Bonhomme en a fait des imbéciles, loin de là. Elles sont extrêmement dynamiques, elles sont extrêmement fortes et on va voir qu'elles vont aller à quelque part puis tout ça, mais dans l'approche que il y a un rapport de force entre elle et Lucky Luke qui me dérange un peu. Et ça, tu vois, ça m'a titillé une petite affaire. Mais Je ne suis pas sûr qu'il y a 2 ans, ça m'aurait titillé autant. Je trouve que je pense que c'est notre société qui bouge beaucoup ces temps-ci et tant mieux, là. Mais on est beaucoup plus conscient ou on a beaucoup plus de regard sur les atrocités qui peuvent se passer dans les relations hommes-femmes, des relations violentes entre hommes et femmes. On n'est pas là dans Lucky Luke, là, je fais une parenthèse énorme, là. Mais moi, je trouve que ça change beaucoup ma lecture de ces rapports-là qui hier, on ne se posait pas de questions, puis aujourd'hui, tu peux te dire, il y a une petite chose qui cloche là-dessous.
Oui, puis en fait, puis le fait que ça nous titille, que ça nous dérange un peu, bien, montre aussi que les mentalités évoluent justement, que les attentes qu'on a envers les scénarios, envers les rôles féminins, à l'intérieur de ces scénarios-là, bien, on n'accepte plus nécessairement qu'elles soient cantonnées dans des rôles plus traditionnels ou plus passéistes un peu dans leur approche, mais qu'il y ait quelque chose de plus, qu'on leur donne une place plus intéressante, dans le fond. C'est ce que j'entends.
Exactement. Et c'est ce qu'il fait. En toute honnêteté, c'est ça qu'il fait, parce que la progression de ces personnages-là, la place de ces personnages-là, leur motivation, entre guillemets, d'acteurs dans l'histoire, comment elles vont créer des pulsions sur le récit, tout ça, elles sont extrêmement importantes. Mais je ne pense pas que c'est dans la volonté de l'auteur qu'il se trouve quelque chose, mais c'est dans ma réalité de lecteur qui a quelque chose. C'est que j'ai l'impression que je suis devenu extrêmement critique et à la rigueur frileux par rapport à ça. C'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. J'ai une lecture biaisée ou j'ai une lecture réaliste. Il y a un côté plus européen, plus nord-américain, je ne sais pas, c'est tout un mélange de tout ça, mais c'est sûr et certain que moi, je vois des choses que je ne voyais pas avant. Voilà.
Alors, en faire recommandation, mais avec petit astérisque pour Wanted, Lucky Luke. Et on passe à un deuxième titre de ton mois en BD, Stéphane, La fortune des Winslav.
Écoute, encore une fois, classique, pourquoi on revient en arrière? C'est la famille qui est à la base de la grande saga et de la série des Largo Winch. Ce sont les grands-parents de Largo Winch qu'on va suivre. C'est Van Hamme qui a fait le scénario. Van Hamme, je veux dire qu'on s'attend toujours à ce qu'il prenne sa retraite et ne fera plus de BD, mais il en fait tout le temps une ou deux petites en parallèle. C'est vraiment l'origine de l'Empire.
Est-ce que c'est une origine qui valait la peine d'être racontée, qui apporte quelque chose?
Moi, je trouve que oui. Je trouve que oui, parce que c'est le début des grandes richesses aux États-Unis autour de le milieu des années 1800. Là. C'est comment ces personnages-là vont réussir à se placer et faire des fortunes dans des endroits où il n'y a encore rien. C'est le rêve américain, mais Largo Winch est aussi, entre guillemets, le rêve américain, j'oserais dire, ultime. Là, Et là, encore une fois, on est dans des clichés. Là, c'est l'homme, le beau jeune homme, riche, sans attachement, avec un paquet de belles bagnoles. Ça n'a aucun bon sens, dans le fond, qu'on aime ça, ces histoires-là, parce que, encore une fois, c'est extrêmement dégradant pour, un, la richesse, deux, pour la relation homme-femme, l'argent dépensé de façon, pour acheter une voiture de centaines de milliers de dollars quand on sait qu'il y a d'autres choses à faire avec ça. Mon Dieu, je trouve que je bifurque beaucoup aujourd'hui, mais je reviens avec
le volet social. Je reprends un peu d'espace.
Je suis parti trop longtemps. J'ai commencé à sortir, à faire des tournages, à voir du monde. C'est le retour du 3D. Et puis, un dessin de Berthet qui, dans cette BD-là, est très, très beau. Moi, j'aime beaucoup Berthet. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un style ligne claire, graphique, très... Bon, il y a quelques années, j'aurais utilisé le mot cinématographique, là, mais je ne veux plus comparer la bande dessinée au cinéma. Je trouve que ça n'a vraiment aucun rapport. Encore une fois, c'est la relation avec la richesse, la relation avec les êtres humains, parce qu'on ne fait pas, on fait pas fortune nécessairement sans faire de mauvais coups dans cette histoire-là. Mais c'est une très belle histoire que Van Damme réussit, encore une fois, à très bien raconter. Je ne sais pas si tu te souviens de la série qu'il avait fait sur la bière, qui s'appelait Les Maîtres de l'Orge, où on racontait d'une famille à l'autre l'évolution des méga brasseries, c'est-à-dire comment les gros Heineken et tout ça sont arrivés à avoir un empire extraordinaire de la bière. Et c'était quelque chose qui est extrêmement bien raconté parce que c'était quelque chose qui était raconté à l'intérieur des familles et à l'intérieur des problèmes familiaux que pouvaient créer ces fortunes-là, ces divisions-là, comment on pouvait acquérir d'autres compagnies. Et dans ça, je trouve qu'on va un peu vers ça, et c'est quelque chose que Van Damme connaît bien et raconte bien. Cette série-là devrait se paraître en trois tomes. C'est pas prévu de s'étirer et d'en faire encore une fois une saga de
quelque chose de plus direct,
25.
De plus cadré.
Ouais, c'est ça. C'est trois tomes et ça va être les trois générations qui vont nous amener jusqu'à Largo Winch. C'est intéressant parce que c'est l'histoire d'un immigrant qui arrive dans une Amérique où tout est permis, puis qui doit prendre sa place et doit réussir à se faire exister, entre guillemets, pour qui il est vraiment, et comment les Américains acceptent les immigrants et comment ils ne les acceptent pas vraiment aussi. Donc, c'est assez contemporain comme idée, mais transposé en 1840 quelques et qui c'est la base d'un personnage que je pense qui a été un grand personnage aussi de la bande dessinée.
Effectivement, un personnage assez marquant. Alors, ça, c'est la fortune des Winslaves, donc aux origines de la dynastie de l'Argo Winch. Et on tombe maintenant avec un titre qui s'appelle Blanc autour.
C'est une BD, Raymond, chez Dargo, de Lupano et Stéphane Fert. C'est premièrement d'une beauté touchante. Cette BD-là est un dessin couleur directe avec...
côté design, à la limite, à défaut de meilleurs termes.
Oui, puis il y a un petit côté... je sais pas comment le dire, mais le graphisme, il y a un côté graphique, justement. On sent que c'est un graphiste, un illustrateur qui est en arrière de ça. Des fois, dans la BD, on est plus près de l'illustration que du dessin, mais faut voir un peu la nuance. Quand on arrive avec le Van Damme, par exemple, c'est Berthet, pour moi, un grand dessinateur, c'est-à-dire que c'est les gestes, les mouvements. Tandis que là, il y a quelque chose dans l'application de la couleur, dans le trait, qui est très, très, très graphique. Chaque case, dans le fond, pour faire un tiré à part qui ferait une illustration qui devient intéressante, elle pourrait être une illustration avec une note de bas de page. Et là, c'est l'histoire du... c'est l'histoire, encore une fois... écoute, j'ai comme un thème, là... l'air de rien, là, c'est les femmes là, pour l'instant. Là. C'est
oui,
les femmes dans la BD. Parce que dans le Luc et Luc, c'est la relation avec la femme qui s'installe. Avec la fortune des Winslow, ben, j'en ai pas parlé, mais en revenir, la femme est extrêmement importante dans cette BD-là parce que c'est elle qui va réussir à aider le personnage à se sortir de où il est pour s'en venir aux États-Unis. Et c'est ensemble qu'ils vont bâtir quelque chose, bien que ça va mener à une séparation. Et puis, dans Blanc autour, ben, c'est l'histoire de jeunes femmes noires qui veulent aller à l'école aux États-Unis dans la période de la traite des Noirs, là. Fait que
c'est
c'est
encore un sujet
extrêmement...
qui malheureusement résonne d'actualité quand on regarde l'actualité américaine, entre autres. Là.
Et
mais
oui,
pas
oui,
seulement
oui,
l'actualité américaine, mais tous
non,
les enjeux autour des enjeux raciaux, entre autres, là, qui ressortent énormément ces temps-ci. Donc, qui apporte, j'imagine, un certain éclairage. Ça va
Oui,
pas
et puis
assez.
c'est l'accès aux connaissances aussi. C'est ça qui est intéressant dans cette BD-là, c'est que une jeune femme noire qui est extrêmement motivée par tout ce qui l'entoure, qui se pose la question dès le début du récit, pourquoi lorsque je mets un bâton dans l'eau, son reflet dans l'eau donne l'impression que le bâton est cassé. Hein? Quand on est jeune, on explore ça un peu, on envoie un bâton dans l'eau, puis on voit que le bâton il fait une courbe. Et là, c'est toute la question de la perception, en fin de compte, et c'est toute la question du point de vue. Et
Oui, puis de la
c'est
capacité à aller chercher à s'éduquer, dans le fond, dans un contexte où vous vous rappelez une époque où l'éducation n'était pas un droit acquis, où le fait d'être
absolument.
humain n'était pas un droit acquis non plus pour tout le monde. Et c'est pas si loin que ça, finalement. C'est ça qui est frappant, dans le fond. C'est,
Non,
on
non,
s'en
c'est
va
pas
pas,
loin.
c'est 200 ans en arrière et moins que ça, même le 100 ans en arrière, dans certains cas.
C'est pas loin, là. Je
Moins
veux
que
dire,
ça. C'est...
c'est après Lucky Luke, là, puis
Oui.
c'est juste avant les Wings, là, dans le fond. S'il y a 175 ans, c'est en quelle année que ça se passe, si j'ai le droit de feuilleter.
Oui, puis dans la forte façon, si on y va avec globalement les enjeux autour de la réappropriation des mouvements sociaux, Rosa Parks et le reste, on n'est pas si loin que ça en arrière.
Ça
Donc.
se déroule en ça se déroule en 1832. Parce que cette BD-là est quand même basée sur des faits qui sont basés sur des faits qui sont réels. À la fin, on a le portrait de certains personnages qui ont vraiment participé à cette mini-révolution-là, c'est-à-dire de faire accepter des jeunes femmes noires à l'école et de même de créer une école de jeunes femmes noires, parce qu'à un moment donné, c'est ça qui s'est devenu. Et ça n'a pas bien été, je peux te le dire. On n'acceptait pas ça. On ne voulait pas que le canton accepte des femmes noires à l'école parce que ça allait attirer les noirs dans le canton. Ça n'a pas de bon sens. On ne veut pas ça. Il faut absolument éliminer ça. Il y a un conflit énorme qui va se bâtir, mais il y a une institutrice qui y croit tellement, qui va débattre pour pouvoir faire accepter ça. Et c'est là l'histoire de Blanc-Autour. Puis c'est tellement bien raconté, c'est tellement bien dessiné, c'est un mini chef-d'œuvre, je trouve, de BD, là. Moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir et en même temps, c'est pas une BD qui est violente et qui est dure. C'est une BD qui est toute en réflexion et c'est ça que j'ai trouvé superbe.
Alors ça, c'est Blanc autour. Et on passe à un dernier titre, Moi, menteur de Kekko et Altariba. En fait, je me rappelle, il y a quelques années, leur récit sur Moi, assassin, si je ne me trompe pas.
Ouais. Moi, assassin, c'était bon. Hein? Ensuite, ils ont sorti Moi, fou, c'était bon. Hein? Et
Exact.
là, ils ont sorti Moi, menteur, et c'est bon. C'est
Donc,
bon.
ils sont sur une bonne
C'est bon.
lancée, visiblement. Là.
C'est bon. Écoute, là, c'est l'homme, là, l'homme, le pire animal sur Terre, dans le fond. On le voit dans Moi, assassin, ça n'a pas de bon sens. C'est la force, c'est la force, la motivation de l'ego de ces personnages-là aussi. Dans Moi, assassin, c'est purement de l'égoïsme pur. Je peux pas parler de Moi, menteur sans parler de Moi, assassin, sans parler de Moi, fou, parce que c'est une trilogie. Et j'ai découvert avec Moi, menteur, la trilogie. C'est-à-dire que j'ai dit, ah, je suis retourné en arrière, j'ai lu les autres, parce que là, les personnages se croisent, les personnages sont dans le même monde, ils sont contemporains, plus que contemporains, ils sont dans le même espace géographique. Mais c'est trois égos extrêmement forts. Un qui se bat pour l'art et qui va assassiner pour des convictions artistiques. L'autre qui croit fondamentalement que le pharmaceutique est... Je veux dire, est en train de manipuler le monde pour essayer de vendre des médicaments, mais c'est un personnage qui est, ou pas, on ne le sait plus, d'une extrême paranoïa. Est-il paranoïaque ou on en a fait un paranoïaque pour pouvoir dissimuler ce qu'il avait trouvé sur les compagnies pharmaceutiques? Et c'est mélangé un peu avec Moi, assassin et l'art. Et là, avec le troisième, c'est un personnage avec des ambitions politiques. On est un peu dans le House of Cards, là, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a des grandes manipulations, des grandes motivations politiques, et sa façon d'en arriver, c'est de ne jamais ou presque jamais dire la vérité. C'est de raconter les histoires qu'il veut et d'amener les gens à croire ce qu'ils veulent. Il va toujours, par contre, rester en retrait. Il ne sera pas le président, il ne veut pas être le président, mais il va être celui qui va toujours manipuler les cordes en arrière. Et là, il va y avoir encore une fois un chassé-croisé avec les produits pharmaceutiques et avec les compagnies pharmaceutiques, avec notre ami, parce qu'on l'aimait pareil, cet assassin-là, moi, du moins, assassin. Et là, c'est la finale, elle devient extrêmement intéressante parce que c'est tous des mondes, dans le fond, qui sont des mondes fabulés par les égos des personnages. Écoute, c'est très, 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 c'est très bon. C'est des BD qui sont quand même, c'est costaud, hein, lire ces BD-là. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de réflexions.
Il y a une richesse, en fait, dans le fond. C'est bien de s'en aller dans du costaud quand on sait qu'il y a un travail, qu'il y a une réflexion derrière qui est construite, qui est intéressante. Et
Exactement.
ça nous amène à se lancer, peut-être, j'ai l'impression, plus librement dans ce type de lecture-là aussi.
Ben, c'est des BD à lire. Tu sais, des fois, il y a des BD comme le Lucky Luke, on le lit, mais on navigue dans un Lucky Luke. On part, puis c'est un beau moment de lecture. On y va du début, on finit. Mais quand on arrive dans ces BD-là, Moi Menteur, Moi Fou et compagnie, il faut vraiment les lire, puis il faut vraiment s'arrêter au texte, parce que le texte est brillant, les textes sont bien écrits et les textes ont une réflexion qui est assez profonde sur le sens de la vie, sur le sens de la manipulation, sur le sens de l'art, le sens sur le désir, tout est là-dedans. Là. C'est extrêmement, extrêmement fort, extrêmement bien fait. Puis je pense qu'il faut mettre la main sur les trois tomes et lire ça cet été avec un lecteur à travers pour respirer un peu.
Exact. C'est l'avantage de BD, on peut métisser des fois les poids, les natures, les sujets et polliniser d'un genre à l'autre en parallèle.
Ouais, si je veux continuer mon thème, malheureusement, les femmes sont un peu accessoires dans ces BD-là. Dans Moi Menteur, la femme est soit trompée ou soit maîtresse. Qu'elle soit dans un cas ou dans l'autre, de toute façon, elle se fait mentir. C'est le propre du personnage principal, mais peut-être qu'il aurait pu avoir une plus grande place pour ces personnages secondaires-là qui viennent juste un petit peu ponctuer le fait que c'est un grand manipulateur. Là. C'était
Alors,
pour garder le thème, vraiment.
Pour garder le thème.
C'est ça.
Alors, Moi Menteur, mais évidemment, ce qu'on recommande, c'est d'aller vers Moi Fou et vers Moi Assassin. Les lire les trois bout en bout, là, que la trilogie vaut vraiment, vraiment la lecture.
Et voilà. Bien résumé. Enfin,
Stéphane Gravel, on te souhaite un bon été.
Et toi aussi. Fond, et tout le monde. Et vous aussi.
Et merci
tout le monde aussi. Merci
nous.
Beaucoup. Merci, bye.
À l'écoute de La Vie en BD et on poursuit cette émission maintenant en compagnie d'Édouard Tremblay. Salut!
Salut Raymond, salut tes auditeurs!
Alors Édouard Tremblay, évidemment, qu'on a l'habitude d'entendre dans les clubs de lecture, l'un des libraires en résidence de La Vie en BD. Et évidemment, je le rappelle, en fait, il y a toujours une invitation ouverte à des cartes blanches qui est offerte aux chroniqueurs, aux collaborateurs de l'émission. Et Édouard, je pense que tu es un fervent utilisateur, dans le fond, de ces cartes blanches. Et tu t'en profites dans ces contextes-là pour nous amener à la découverte. Je pense que la dernière fois, c'était le label 619. On a parlé de la Rome autour de la bande dessinée. Mais évidemment, pour ceux qui te connaissent dans une perspective de libraire du côté de chez Pantoute, je pense savent que tu as un vif intérêt pour le manga. On le découvre aussi avec les clubs de lecture. Et quand tu m'as proposé une carte blanche, tu me disais, mais regarde, il y a Panini présentement là, qui réédite. Et là, tu as mis le mot « enfin ». Ça, on met l'emphase, c'est un événement, c'est majeur, on est content. Donc, il réédite enfin Lone Wolf et Cub cet automne. Et donc, il dit, ben, pourquoi pas en profiter pour parler de Kazuo Koike, pour parler de Koseki Kojima, pour parler de Lone Wolf et pour parler d'autres de leurs œuvres mythiques. Et là, je voyais les mots mythiques, enfin, et le reste, et je me disais, mon Dieu, il y a tout un univers là-dedans que je ne connais pas. Je ne suis pas un fervent lecteur de manga. C'est une zone d'ombre que j'essaie progressivement de corriger. Et j'ai l'impression, avec cette carte blanche-là, Édouard, en ce qui me concerne à tout le moins, je ne peux pas parler pour les auditeurs, auditrices, mais j'ai l'impression que je vais partir avec toi à la découverte de deux auteurs qui méritent largement d'être lus et j'aurai visiblement une belle opportunité de rattrapage cet automne.
Tout à fait, mon cher ami, tout à fait. Écoute, j'en profite, hein, n'ayant pas Jérôme pour me couper et Marco pour dire que le manga, c'est plate, hein, je me lasse de plein pied. Et je pense que tu as bien cerné, oui, tu as bien saisi l'importance de ce que revêt pour moi cette publication-là. Je te contextualise le tout. Écoute, d'emblée, moi, Lone Wolf & Cub, ça a été un des premiers mangas qui m'a introduit, justement. Genre, je suis pas un... Oui, j'ai écouté des séries animées et tout, mais je n'étais pas un lecteur de manga depuis tout petit. Puis non, ça m'est venu très, très tard, au début, quelques temps un peu avant ma carrière de libraire, en fait. Et Lone Wolf & Cub, justement, à part ses thèmes, de par ce qu'il abordait, ben, a été un peu mon introduction au genre. Et te dire, écoute, que ça a été une épiphanie, mais une révélation complète et totale. J'ai été complètement ébloui, complètement absorbé par cette œuvre-là qui est quand même très longue. Ça, c'est 28 volumes de manga, là, quand même.
Il y a de l'ampleur, là, vraiment.
Il y a de l'ampleur. C'est pour ce genre de série historique-là. Souvent, on retrouve ça, disons, dans ce qu'on appelle le shonen, en fait, donc les séries de plus longue haleine. On connaît One Piece, qui est rendu pratiquement à 100 tomes. Naruto, qui est rendu à pas loin de 80. Donc, il y a ces séries-là, souvent, qui ont été traditionnellement, disons, un peu plus longues. Mais d'avoir une saga comme ça, une fresque, ni plus ni moins, parce que quand, bon, je vais avoir l'occasion de vous expliquer un peu, vous allez voir que c'est littéralement une fresque. C'était déjà quelque chose d'assez exceptionnel. Et pour mon plus grand malheur, écoute, pour ma plus grande malchance, à peine ayant commencé à travailler en librairie, tout heureux, en fait, de pouvoir justement faire découvrir ça aux gens, de dire, écoute, ça va être un des premiers coups de cœur, ça va être bon. Eh bien, la série est tombée en fin d'édition, en arrêt d'édition. Et progressivement, j'ai vu les larmes aux yeux, les tomes, un en arrière de l'autre, tomber en non-disponibilité. Ce qui fait que je n'ai jamais pu, en plus de 11 ans de librairie, je n'ai jamais pu avoir la chance, en fait, de faire découvrir ça aux gens, de les amener dans cet univers-là, de les amener justement à la découverte de ça. Et là, par pur hasard, parce que comme d'habitude, évidemment, j'essaie de me tenir un peu hein, au courant de qu'est-ce qui se publie dans le manga. Bon, justement, pour ceux qui veulent découvrir un peu le site Manga News, et je te le suggère aussi, qui est vraiment très complet, très bien, pour les gens qui veulent, qui sont un peu intimidés, justement, qui ne savent pas trop comment s'orienter. Avec ça, c'est très, 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 très fun. Ça ne vaut pas un libraire, mais ça fait un job. Et voilà, justement, ben, passant justement dans les nouvelles récentes de l'univers du manga, eh bien, je vois ça, écoute, le cœur m'a arrêté, j'ai manqué un souffle, j'étais en pure extase, pur bonheur, j'ai dit, enfin, après 10 ans, et écoute, j'ai écrit à panier, j'ai tout fait, là.
Des fois, il y a toujours un peu la question à savoir qu'est-ce qui fait que ça débloque à un moment donné, puis qu'on choisit de rééditer, qu'on choisit de replonger dans certaines séries. Des fois, on aimerait ça être une petite souris ou être la peinture sur les murs des salles éditoriales.
Ah, si j'avais été dans leur comité éditorial, ils m'auraient détesté, là, parce que ça aurait été mon cheval de bataille, écoute, constamment. Mais donc, enfin, oui, la nouvelle est tombée. Donc, cet automne, ils nous repréparent en plus une belle édition, 12 volumes, 700 pages chaque, écoute, édition de luxe, un petit peu plus grand format. Ça va être vraiment quelque chose en plus de somptueux, de très beau.
Et là, tu dis c'est 700 pages par volume?
Oui, oui, oui.
Donc quand tu parlais de fresque tantôt, je veux dire, c'est 28 tomes, mais si 28 tomes, donc ça se concrétise en 12, mais 12 de 700 pages. OK, ton terme fresque est comme diablement justifié.
Et très, 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 très justifié. Et écoute, je veux dire, on ne peut pas résumer comme ça aussi simplement l'ampleur de ce que, justement, Kazuo Koike et Kozeki Kojima ont fait là-dedans. D'emblée, avant même bon, de s'attaquer à Lone Wolf & Cub, à proprement parler, il faut comprendre que ce duo-là a produit aussi, malheureusement, c'est traduit seulement en anglais, on n'a pas eu beaucoup de traductions françaises, francophone, mais d'autres séries, je pense à Samurai Executioner, je pense à Path of the Assassin aussi, qu'on connaît sous le nom d'Anzo No Man, qui se déroulent également à la même époque que Lone Wolf and Cub et qui vont même entremêler. Donc, on est toujours au début de l'époque Edo. J'aurai l'occasion de vous la contextualiser un petit peu dans quelques minutes. Et donc, on comprend justement que Kazuo Koike, c'est une époque qu'il connaît sur le bout de ses doigts, dans ses moindres détails. Et c'est pour ça aussi qu'il est capable de nous donner une telle richesse, un tel débordement. Du reste aussi, ces œuvres-là qui ont été publiées dans les années 70, entre 70 et 76, j'y ajoute aussi Lady Snowblood, qu'il avait fait cette fois-là avec Kazuo Kamimura, dont on a entendu parler parce que ça a été un peu, en fait, ça a été l'inspiration pour Kill Bill, le fameux personnage de The Bride d'Uma Thurman, était Tarantino Love, ou directement inspiré du personnage de Lady Snowblood qu'a créé justement Kazuo Koike. Et donc, on est dans les années 70, et le Japon lui-même, à l'instar de l'Europe, à l'instar aussi bon, du Québec et du Canada, va avoir son espèce de mai 68 et une espèce de période d'effervescence où, justement, on va essayer de s'extirper un peu des cadres traditionnels. On va essayer d'amener notamment les formes d'art et donc le manga un petit peu plus loin, de sortir des histoires de base pour enfants ou des trucs très formatés. Et c'est dans tout ce foissonnement-là que... c'est tout ce foisonnement-là, en fait, qui permet l'arrivée de quelque chose d'une telle ampleur, aussi pointue, aussi complexe, qui, oui, célèbre, bien sûr, l'histoire nationale, mais en même temps qui présente un personnage qui va à l'envers complètement de ce qu'est le samouraï traditionnel et de ce qu'on considère comme le Bushido.
Donc, ça se place vraiment dans un tournant, dans l'évolution du manga. Dans le fond, c'est une des œuvres qui ont marqué un peu cette nouvelle tangente-là qui se développait.
Exactement, exactement. Koike va s'inscrire dans un mouvement très, 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 très florissant. Et maintenant, on va voir le manga, comme je dis, prendre de la maturité, essayer des nouveaux thèmes, des nouveaux genres, des nouveaux styles de dessin. Ça va éclater de côté. En même temps que la société japonaise elle-même, là, qui vit, elle aussi, comme je disais, là, beaucoup de manifestations, beaucoup bon, de levée étudiante, c'est le mai 68 japonais, hein, donc les années 70, justement, nous ont donné ces grands artistes-là. Et justement, dans Lone Wolf and Cub, eh bien, un des points, au-delà de l'histoire, bien sûr, qui est extraordinaire, un des points qui fait la force de ce truc-là, c'est justement son historicité. C'est le portrait très, 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 très vaste, très fin, que l'auteur et le dessinateur vont dresser de l'époque Edo. Avant d'avancer plus loin, justement pour ceux qui seraient un petit peu moins familiers, bon, peut-être que le terme époque Edo, tu l'as peut-être déjà entendu, c'est quand même une période qui a
duré longtemps. Oui, mais en fait, je vais apprécier la précision.
Ben voilà. Donc, en fait, on est au tout début du 17e siècle. Le Japon vient de traverser un peu plus d'un siècle de guerre civile qui l'ont complètement dévasté d'un bout à l'autre. Une période qu'on a appelée le Sengoku. Essentiellement, donc, la période des guerres civiles, où un paquet de grands chefs de guerre, de grands militaires, de grands stratèges vont s'affronter pour savoir qui va pouvoir, dans le fond, s'emparer du pouvoir, qui va pouvoir unifier le Japon. Il faut comprendre qu'à l'époque, la figure de l'empereur est vraiment purement religieuse et symbolique. Le vrai maître du Japon depuis déjà plusieurs siècles, c'est le shogun. Shogun qui est le dictateur militaire, essentiellement. Donc, c'est lui qui a le contrôle. Et donc, c'est pour ce titre-là qu'on s'affronte maintenant depuis des années et des années et des années avec tout ce que ça implique. Va arriver, un peu justement avant le début de cette période Edo, trois grandes figures qui vont en fait être justement ceux qui vont unifier, qui vont concrétiser cette réunion-là et qui vont mettre fin à cette ère-là. D'entre eux qui est très connu, ou un petit peu plus connu, c'est Oda Nobunaga. Quelqu'un, entre autres, un chef de guerre bon, dont la réputation est tumultueuse,
trubillonne. Il a inspiré moult jeux vidéo.
Énormément, énormément, énormément. Mais c'est ça qui est extraordinaire aussi. J'en profite pour une parenthèse parce qu'il y a certains jeux, je pense à la série Samurai Warrior, moi, j'ai appris tous mes seigneurs de l'époque du Sengoku grâce à Samurai Warrior parce que c'est des vrais personnages et c'est des vraies batailles. Je suis arrivé dans l'époque Edo avec ça et je savais déjà partout où je m'en allais. C'était ridicule.
Moi, mes références sont plus sur les jeux Koei. Là. Je ne sais pas si tu te rappelles, Nobunaga's Ambition puis la romance des trois royaumes pour la Chine, ces trucs-là. Là, c'est
ben, exactement,
des belles portes d'entrée, en fait, vers l'histoire de ces pays-là.
C'est le même principe, justement. Il y avait, en parallèle de Samurai Warrior, puisqu'on y est, Dynasty Warrior qui faisait la même chose, mais pour justement la période des Trois Royaumes, et on découvrait tous les grands noms, Lu Bu et tous les autres. Mm-hmm. Donc, vraiment comme une base intéressante et assez, justement, qui nous permet de rentrer là-dedans et de savoir tout de suite où on s'en va. Et donc, justement, grâce à ça, ben bon, Oda Nobunaga, je savais déjà qui c'était. Après sa mort, va lui succéder un homme du commun qui a une ascension extraordinaire de simple fils de paysan à shogun, à unificateur du Japon, qui va être Hideyoshi Toyotomi. Hideyoshi, en fait, bon, son règne va prendre fin. Et donc, le Japon va rentrer, encore une fois, dans une grande scission, l'Est contre l'Ouest. Et il va y avoir cette bataille décisive en 1600 qui s'appelle la bataille de Sekigahara. La bataille de Sekigahara, une bataille extrêmement vaste, écoute, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de combattants qui s'affrontaient de chaque côté, les canons à travers tout ça. Écoute, c'était une bataille monumentale, et de laquelle finalement le clan, les partisans en fait des Toyotomi vont être vaincus par le clan qui va devenir justement le dirigeant, le nouveau shogun, celui qui va initier l'ère Edo, donc le clan Tokugawa. Et c'est justement donc grâce à ce premier grand chef-là, donc Ieyasu Tokugawa, va terminer l'œuvre entamée par Nobunaga, par Hideyoshi, va unifier finalement le Japon et va y instaurer le shogunat, va installer le début de cette fameuse ère qui va être l'ère Edo, qui va durer jusqu'en 1870 à peu près, là, donc un 250 plus ères de paix, de stabilité. D'isolationnisme aussi beaucoup, mais bon, j'y rentrerai pas parce que là, je vais te faire un cours d'histoire d'une heure là-dessus. Tu comprendras que j'aime beaucoup le.
On esquisse, on ira lire les livres. En fait, il y a sûrement plein de belles suggestions historiques, donc
tout au à besoin. Fait, oui. Tout à fait, oui, c'est ça. Et donc, avec le régime des Tokugawa, ben, va s'installer justement la paix, mais aussi un régime qui va être très autoritaire, très dictatorial, très centralisant. Et bien sûr, tous ces daimyo, donc ces espèces de grands chefs de guerre, c'est l'équivalent un peu de la noblesse bon française, on peut faire un parallèle rapide, c'est des nobles et des comtes. Donc, tous ces grands daimyo, eh bien, tous ceux qui se sont battus contre Ieyasu Tokugawa, il y en a plusieurs qui vont voir leur clan être dissous pour toutes sortes de raisons. Il y en a beaucoup qui, justement, on va les punir de toute manière. Donc, Ieyasu va établir son autorité sur ces gens-là. On va les obliger à avoir des maisons en permanence à la capitale, à Edo, pour les obliger justement une fois aux 3-4 ans à monter à la capitale et tout ça. Et donc, c'est dans ce contexte autoritaire-là que va se lancer l'histoire de Lone Wolf and Cub, l'histoire de donc Kozure Okami, comme on dit en japonais, d'un personnage qui s'appelle Ogami Ito. Ogami Ito était un grand samouraï, le Koji Koishakunin, le maître exécuteur du shogun lui-même, donc un poste extrêmement prestigieux. Mais il va se frapper, en fait, à une espèce de gouvernement de l'ombre, parce que, comme je disais maintenant, bon, les samouraïs, la guerre, il y en a beaucoup moins, on agit dans le feutré. Et par l'intermédiaire d'un type qui s'appelle Retsudo Yagyu, le clan Yagyu, qui a toujours été un des clans les plus puissants, les plus proches, en fait, des Tokugawa, qui va leur avoir donné un paquet de maîtres d'armes et autres. Et donc, Retsudo Yagyu, chef des Ura Yagyu, donc des Yagyu de l'ombre, va fomenter un complot qui va résulter en l'assassinat d'Azami, l'épouse de Ogami Ito. Ogami Ito qui se retrouve à partir de là avec son jeune fils Daigoro qui a 2 ou 3 ans, très très jeune garçon, donc sur les bras, et qui va le placer devant un choix très difficile. Il va dire: à partir de maintenant, je dois me venger et je dois me lancer sur une voie qui est à l'envers du Bushido. Une voix qu'il va appeler le Meifumado, la voix de l'enfer bouddhique. Et donc, eh bien, je ne peux pas me permettre de trimballer un enfant avec moi qui ne pense qu'à s'amuser. Et donc, il va lui mettre devant lui une balle et un tanto, un poignard. Et il va lui dire, choisis, Daigoro, si tu choisis la balle, je te renvoie auprès de ta mère. Si tu choisis la dague, tu m'accompagnes sur les routes. Daigoro choisit la dague et à partir de là, tout est dit. Poussant à travers tout le Japon, son espèce de petit carrosse en bambou dans lequel se trouve son fils Daigoro, Ogami Ito va devenir assassin et va comme ça accumuler de l'argent, ce qui déjà est un non-sens absolu pour un samouraï. L'argent, c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose qu'on se fait offrir des biens, on se fait offrir des terres, mais jamais de l'argent, ça, c'est pas propre. Et donc, lui, en échange justement de pièces d'or rutilantes, va servir d'assassin à qui voudra bien le payer. Tout ça dans le but, bien sûr, de préparer tranquillement sa vengeance contre Retsudo Yagyu. Vengeance qui, tu vas le comprendre, justement, prend 28 tomes. Donc, il va errer pendant plusieurs années, pendant plusieurs saisons et à travers tout le Japon.
Donc, il y a vraiment un build-up vers cette vengeance-là. On suit vraiment ce héros-là sur l'ensemble d'un parcours
exactement,
de vie.
Compte, d'une obsession, exactement. Exactement. D'un aussi. Nombre absolument incalculable de combats, parce que, bien sûr, les Yagyu sont sur sa piste. On va envoyer des assassins, des samouraïs. On va envoyer tout ce qu'on peut contre lui. En plus, bon, des adversaires que lui-même accepte de vaincre de par son statut d'assassin. Mais justement, par le truchement de ce voyage-là, de cette pérégrination qui dure très longtemps, eh bien, on découvre le Japon de la noblesse jusqu'au plus petit paysan, jusqu'au Heimin, jusqu'au marchand, jusqu'à l'esclave intouchable, à toutes les périodes de l'année, dans toutes les situations, que ce soit des porteurs qui ont pour tâche de faire traverser la rivière à des gens, que c'est leur métier, que ce soit des forgerons, que ce soit justement des chefs de police dans de grandes villes ou de simples paysans sous le joug d'un seigneur qui s'amuse à chasser des chiens, tout le Japon de l'époque, justement, va être illustré magnifiquement. On s'entend, là, je ne me tire pas là-dessus, mais je veux dire, Gosaki Kojima, comme je l'avais déjà souligné précédemment dans un autre club, est une des inspirations, notamment de Frank Miller, son trait qui rappelle un peu les encres, justement, asiatiques, chinoises et japonaises. Absolument magnifique.
Donc, le terme fresque que tu utilisais au départ, en fait, on peut le prendre comme fresque historique, dans le fond, comme vraiment le parcours de cet homme-là sur le long terme, sur ses 28 tomes, sur ses milliers de pages, sur ses centaines de pages, mais comme fresque aussi, fresque d'un Japon historique, à travers sa société, à travers ses régions, à travers ses saisons. Donc, double fresque, si on peut dire, presque à la limite. Là.
Oui, exactement, parce que comme je le disais, au-delà de se laisser porter par l'histoire, qui vous dit qui est très riche, évidemment, en rebondissements, qui est très riche en scènes, écoute, moi j'ai fini ça, écoutez, j'avais des larmes aux yeux, mais donc au-delà de ça, ben, justement, j'ai appris sur le Japon féodal, sur le Japon de l'époque Edo, par ça, parce qu'il y a souvent aussi un très bon index, des bonnes contextualisations, j'espère qu'ils vont nous garder ça et qu'ils vont probablement même les bonifier.
Oui, mais ça, c'est intéressant. Ça veut dire aussi qu'il y a un effort des auteurs dans l'historicité ou dans l'histoire. Et donc, ce que tu lis d'un point de vue narratif, d'un point de vue histoire, donc avec le petit âge, mais c'est intéressant, c'est dynamique. On nous amène dans le parcours de ce bonhomme-là, dans son obsession, mais qu'en parallèle, le grand H aussi est bien représenté, puis qu'on peut accepter ce qui nous est présenté comme encore là des bribes de l'histoire du Japon. Qu'on peut appeler ça à l'explorer dans d'autres ouvrages, mais il y a des assises, il y a des bases, il y a une documentation dans le fond.
Totalement. Et c'est, je pense, un point toujours apporté au crédit du manga. En fait, très souvent, les auteurs, que ce soit l'histoire japonaise ou même l'histoire européenne, ont souvent une assez grande préoccupation d'essayer de faire leurs recherches, d'essayer quand même si c'est possible de le contextualiser d'une manière crédible, sans défaire bon l'histoire qu'on veut raconter, ils vont le faire. Ils vont prendre la peine de consulter des ouvrages, de mettre les choses comme ça. Et, pardon, ça donne justement une valeur didactique au manga que je trouve qui est extraordinaire. Parce qu'on refile ça entre les mains, bon, de jeunes ou comme justement d'adultes qui veulent. On se pète des heures et des heures et des heures de plaisir. On tripe sur l'histoire. Mais bon sang, à la fin de tout ça, on ressort avec un bagage de connaissances. Et écoute, on est historien, on le sait, là, des fois, des livres d'histoire, quand ça veut être hermétique, poncif et ennuyeux, Ça peut l'être, là, tu sais, on ne se cachera pas.
D'où l'intérêt d'avoir des portes d'entrée pour stimuler l'imaginaire, pour stimuler le désir d'en savoir un peu plus, puis après ça, des fois, d'accepter d'aller dans des livres qui sont peut-être un peu plus ardus parce qu'on a envie, parce qu'il y a des BD, parce que des ouvrages qui nous ont donné envie d'en savoir plus.
C'est comme ça, exactement. C'est plus facile que juste des fois rentrer à rebours, hein, et là, on tombe dans quelque chose, on ne comprend rien. C'est là, il y a l'image en plus, hein, on l'a toujours dit, je veux dire, le truchement de l'image avec la BD. Quel appui, quelle façon de contextualiser justement tous les concepts qui l'amènent. Et bien sûr, de présenter encore une fois l'architecture, les vêtements, les styles de combat qui sont variés, qui sont riches, encore une fois. Et là, je ne parle que de Lone Wolf and Cub, mais dans Samurai Executioner, où on suit en fait Yamada Simon, qui est en fait un bourreau, mais qui a pour mission justement de tester les katanas, entre autres, hein, ce qu'on faisait souvent sur les prisonniers et tout. Et bien, encore une fois, là, c'est tout un pan de la noblesse, de quelque chose, en fait, d'une réalité très cryptique, de la forge et de tout ça qu'on va découvrir à travers lui. Dans Enzo No Man, ben, c'est la vie d'Hattori Enzo, l'espèce de fameux ninja un peu mythique, hein, peut-être un des plus connus quand on parle de ninja. Qu'on va justement débroussailler avec, bon, les connaissances qu'on avait aussi, bon, sans encore une fois rentrer dans le détail, disons que pour l'instant, l'image du ninja telle qu'on le voyait, telle qu'elle est présentée, bon, dans Path of Assassin, est maintenant de plus en plus remis en cause. On parle maintenant de plus en plus, de samouraïs, en fait, qui seraient spécialisés dans le renseignement et non pas de ces espèces de figures de l'ombre vêtues de noir, des pieds à la tête, puis qui, bon, tu sais, lancent des shurikens et qui ont toute cette mythique là semble avoir été un petit peu bon construite, mais n'empêche que Hattori Enzo a réellement vécu et qu'il était un des bras droits d'Ideyasu Tokugawa, donc à la même époque, comme je te disais, avec Enzo No Man, on découvre cette fois-là tout le pan de la noblesse, comment l'époque Edo va s'instaurer, comment cette espèce de jeune naïf, un peu peureux d'Ieyasu Tokugawa va devenir cet homme de fer, ce shogun, en fait, et ce grand unificateur. Et donc, un parcours très, très, très touchant. Je tiens juste à préciser aussi, par la bande, par contre, c'est pour du public adulte. De toute façon, je pense pas que l'histoire irait parler à un jeune, mais il y a quand même beaucoup de sexualité, il y a beaucoup de violence, comme je le disais aussi.
C'est de type Game of Thrones.
C'est de type, oui, Game of Thrones. Et encore une fois, ben, ça s'inscrit justement dans le Japon d'époque, donc il faut oublier la dichotomie du bien et du mal judéo-chrétien. Je veux dire, à l'époque, la nudité, c'est tout à fait naturel. Les gens, hommes et femmes, se baignent ensemble dans les onsen, dans les bains publics. Donc,
on s'immerge dans une autre culture avec d'autres éléments, d'autres cadres, d'autres conventions, dans le fond. Et c'est aussi ce qui fait l'intérêt, de toute façon, de ces lectures-là, dans le fond, de plonger, de comprendre comment l'époque médiévale et féodale a été vécue ailleurs. On a beaucoup l'imaginaire européen qui était présent, mais il y a d'autres choses ailleurs qui existaient aussi, qui est tout aussi intéressant.
Exactement. Et la mentalité aussi d'époque va être très, très bien rendue par Koike. Ce qui fait que des fois même, on va être un peu perdu. On va se dire, voyons, bon, justement, le bien et le mal, non, oubliez ça. Là, c'est des voies. On suit sa voie. Peu importe, c'est la voie des enfers. On va y aller jusqu'au bout. Donc, quelque chose, comme je disais, qui va nous prendre directement. Et pour ceux qui voudraient, bon, en attendant l'automne, déborder un peu, je vous suggère notamment deux magnifiques mangas, L'homme qui tue Nobunaga. Découvrez ça, magnifique pièce historique avec un chapeauté par Kenzaburo Akechi, super intéressant, et Le Tigre des Neiges également, là, qui nous amène du côté de Kenshin Uesugi, un des autres grands chefs de guerre de l'époque. Donc, de quoi patienter en fait jusqu'à cet automne.
Oui, puis une belle immersion que tu nous proposes dans le fond, dans l'histoire du Japon d'un côté, puis de l'autre côté dans un manga incontournable, dans une approche visuelle qui a fait école, tu l'as dit tout à l'heure, et donc ouais. En route vers l'automne, mais de replonger ou de plonger pour une première fois, dans les cas de gens comme moi, dans ce Lone Wolf and Cub de Kazuo Koike et Goseki Kojima, donc réédition qui va nous arriver du côté de chez Panini. Et on comprend qu'on se doit de l'attendre. Et,
Faut pas laisser passer ça.
Et Edouard, en fait, le premier tome, dans le fond, si on plonge là-dedans, ben, nécessairement, si on accroche au premier tome, c'est clair qu'on est là pour la série. C'est ce qu'on...
Tout à fait.
En fond, nécessairement.
Fait. Vous ne pourrez plus lâcher ça. Prenez-vous du temps. Oubliez manger. Oubliez dormir. Mais que vous ayez la série au complet entre les mains, là, vous allez découvrir un paradis à nul autre pareil.
Alors, ben, une belle mise en bouche que nous offre Édouard Tremblay. Édouard, merci beaucoup.
Un grand plaisir, comme toujours, mon cher ami.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, puisque ce sera un club de lecture. Alors, on aura l'occasion de plonger dans 4 livres de la littérature jeunesse. Alors, je te dis à la semaine prochaine et je me garderai le bon été pour la semaine prochaine, justement. Alors, merci encore. Et ben, je rappelle de notre côté, ben, pour aller chercher les balados, c'est sur lavieenbd.com. On va annoncer également sur le site les lectures pour le club de lecture. Alors, ben voilà qui termine cette édition de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Toujours au plaisir d'être avec vous et on se dit à la semaine prochaine.